Vous écoutez, on lit pour vous.
Le slut-shaming sous la loupe d'une sociologue. Un texte de Mélissa Guillemette paru le 16 août 2024 dans Québec Science. Vous vous souvenez de cet élève dont la poitrine s'est développée dès le primaire et qui était donc réputé déniaisé? Ou de cette rumeur, voulant qu'une autre avait caressé le pénis de deux garçons dans l'autobus en deuxième secondaire? De cette collègue qui aurait embrassé une autre femme de façon un peu trop vulgaire au dernier party de bureau. Qu'il s'agisse de faits ou de rumeurs, le mal était fait pour ces filles et ces femmes. Elles étaient condamnées. Quant aux deux garçons, tout le monde a oublié leur implication dans l'affaire, ou alors ils n'en sont devenus que plus cool. C'est l'effet typique du slut-shaming, ce phénomène qui consiste à critiquer, stigmatiser et humilier les femmes dont le comportement ou l'apparence physique sont considérés provocants ou trop sexuels. C'est précisément le sujet d'un nouvel ouvrage, Slut-shaming, sexualité, honte et respectabilité des femmes, publié le 18 septembre 2024 aux presses de l'Université du Québec. Ce livre revient sur les origines victoriennes du phénomène, une époque où les femmes avaient une obligation de vertu et devaient s'en tenir à la sphère domestique pour être respectables. Il dresse ensuite l'état des lieux et propose des pistes d'action. Nous avons rencontré l'autrice, Elisabeth Mercier, professeure au département de sociologie de l'Université Laval. Québec Science. Votre ouvrage est le premier titre d'une nouvelle série de livres de vulgarisation scientifique appelé PUQ360 des presses de l'Université du Québec. Que souhaitiez-vous transmettre au grand public avec cet ouvrage? Elisabeth Mercier. J'écris toujours sur des sujets qui font appel aux préjugés, aux croyances et à l'expérience personnelle et sur lesquels on a déjà des opinions. L'idée est de prendre un pas de recul et de réaliser que c'est plus complexe que ce qu'on pensait. Plus important aussi, on a tendance à prendre le slut-shaming à la légère. C'est pourtant un outil de contrôle social et sexuel qui empêche les femmes d'avoir une liberté sexuelle digne de ce nom. Québec Science. Vous avez interrogé 18 femmes d'âge varié. Leurs anecdotes remontaient pour la plupart à l'adolescence ou à la jeune vie adulte. Est-ce l'âge d'or pour le slut-shaming? Elisabeth Mercier, c'est dans la période de transition vers l'âge adulte, à partir de la puberté et jusqu'au début de la vingtaine, qu'on retrouve le plus de témoignages de slut-shaming. C'est une période importante dans le développement sexuel des personnes, mais le phénomène peut se manifester à d'autres moments de la vie. Québec Science, les jeunes d'aujourd'hui ne sont-ils pas plus ouverts? Elisabeth Mercier, c'est ce qu'on dit. Mais ce que j'ai réalisé avec cette étude, c'est que ça ne change pas tant que ça. Oui, il y a une plus grande visibilité de la diversité sexuelle et de genre, oui, des contenus intéressants comme des balados sont très accessibles. Mais, encore et encore, à l'adolescence, les préjugés et les inégalités les plus conventionnelles sont reproduits. Québec Science. L'anecdote de l'autobus citée en introduction vient d'une de vos participantes. Elle remarquait se souvenir uniquement de l'identité de la fille, pas de celle des deux garçons. Que peut-on en déduire? Elisabeth Mercier. C'est comme ça pour toutes les anecdotes. Pas seulement celle de mes participantes, mais aussi dans la littérature scientifique. Ça revient constamment parce que c'est des filles que la société se préoccupe. C'est leur sexualité à elles qui pose problème, qui est scrutée, jugée et qui fait l'objet de rumeurs. La rumeur sexuelle, c'est une des principales modalités du slut-shaming. Il y a bien des gars dans les rumeurs, mais ils sont de simples figurants. Québec Science. Vous affirmez qu'il faut examiner le slut-shaming comme un phénomène singulier plutôt que comme une sous-catégorie d'intimidation. Pourquoi? Elisabeth Mercier. C'est un phénomène qui ne relève pas toujours de l'intimidation pure et simple. C'est un phénomène de reproduction de normes inégalitaires, des normes sexuelles, mais aussi des normes de genre. Le slut-shaming cible la sexualité, mais finalement, c'est une police du genre. Il maintient les injonctions du genre féminin, comme la respectabilité et l'idée que la sexualité des femmes a quelque chose de honteux. Et si on le regarde simplement comme de l'intimidation, on passe sous silence le fait que le slut-shaming peut être intériorisé. Une fille peut se juger elle-même, s'empêcher de s'habiller d'une certaine façon ou de poser certains gestes de peur de passer pour une salope. Québec Science. On comprend à la lecture de votre livre que beaucoup, beaucoup de choses peuvent mener à la réprobation des femmes, que ce soit une poitrine trop généreuse ou un franc-parler. D'où est-ce que tout cela vient? L'époque victorienne semble plutôt loin. Élisabeth Mercier. La vertu, ça remonte à il y a longtemps. Les femmes s'évaluent et sont encore évaluées constamment dans des schémas qui départagent les bonnes et les mauvaises filles, comme à cette époque. On surveille leurs désirs, leur consommation d'alcool et de nourriture. Les femmes qui ne sont pas capables de se contrôler sont mal vues. Québec Science. Vous dénoncez les campagnes de sensibilisation qui s'apparentent au slut-shaming. Par exemple, celles qui exhortent les filles à ne pas partager de photos d'elles nues à un partenaire. En quoi est-ce du slut-shaming? Élisabeth Mercier. L'humiliation des victimes à travers les partages non consensuels n'est pas vue comme un problème. C'est un levier pour les décourager d'avoir ce type de pratique. On ne dit pas que c'est une forme de violence à proscrire. On dit aux filles, si vous faites ça, vous risquez d'être humiliées publiquement. Votre père et votre patron verront cette photo et votre vie sera ruinée. Polissez votre comportement et il ne vous arrivera rien de mal. On pourrait aussi dire aux garçons de ne pas partager les photos. Québec Science. Votre livre invite les parents à examiner leur propre comportement. Avez-vous des exemples concrets? Élisabeth Mercier. On parle souvent du slut-shaming en ligne ou par les pairs à l'école, mais un des résultats qui m'a surprise dans cette étude, c'est le rôle des mères et de la famille dans le phénomène. Ça peut être des propos, des regards, des punitions pour un comportement. Les participantes excusaient d'ailleurs leur mère. Elles se disent qu'elles s'inquiétaient pour elles, qu'elles se souciaient de leur intégrité physique et de leur réputation. Moi aussi, j'ai une fille, et je réalise qu'on a des réflexes ancrés en nous. On doit revoir nos idées reçues vis-à-vis la sexualité et se demander pourquoi la sexualité des filles nous dérange autant. Est-ce que les interdits qu'on impose à nos filles visent à les protéger ou à restreindre leur autonomie? Est-ce la bonne façon de protéger quelqu'un? C'est important de s'interroger sur les règles de la maison. Sont-elles symétriques pour les filles et les garçons? Une participante racontait que c'était à elle qu'on parlait de sexualité et d'ITSS et pas à son frère. Québec Science. Vous dites qu'il faut combattre le phénomène en amont, notamment grâce à une éducation sexuelle positive. Qu'est-ce que cela signifie? Élisabeth Mercier. Une éducation sexuelle positive évite de parler de sexualité uniquement en termes de violence, de danger ou de risque pour la santé physique et psychologique. Depuis le mouvement #MeToo, on parle presque exclusivement de sexualité aux filles, comme ça. L'idée n'est pas de nier le danger, mais de réaliser que la vulnérabilité des filles à l'égard de la sexualité, ce n'est pas que la violence, mais aussi la honte qu'elles ressentent par rapport à la sexualité. C'est leur donner le droit à l'expérimentation, le droit à l'erreur. C'était « Le slut-shaming sous la loupe d'une sociologue », un texte de Mélissa Guillemette paru le 16 août 2024 dans Québec Science.
Votre partenaire oublie certaines tâches ménagères, c'est peut-être de l'incompétence stratégique. Un texte de Laurence Niozzi, paru le 25 juillet 2024 dans Urbania. Votre chum se dérobe de certaines tâches ménagères sous prétexte qu'il n'est pas capable de les faire. C'est ce qu'on appelle l'incompétence stratégique ou « weaponized incompetence » en anglais. Mon ex me disait souvent « je suis pas bon pour faire ça » ou « je priorise d'autres choses dans lesquelles je suis bon, comme les travaux manuels ». Donc, je restais pogné avec les tâches de merde, m'écrit mon ami qu'on nommera Constance. Il aurait pu me montrer comment visser et moi, j'aurais pu lui montrer comment torcher un bol, mais j'étais gardé dans cette espèce de vortex de tâches considérées féminines, poursuit-elle sur son ex et père de son enfant. Le terme « weaponized incompetence » a été utilisé pour la première fois par le journaliste Jared Sandberg dans le Wall Street Journal en 2007 pour décrire une situation dans un contexte professionnel. Mais l'expression a depuis trouvé une forte résonance chez les femmes. Sur Reddit, ce ne sont pas les témoignages de femmes et de mères, généralement en couple avec un homme, qui manquent. Il utilisait son trouble de l'attention, TDAH, pour justifier sa paresse, écrit l'une. « Mon ex-mari refusait de faire la vaisselle, ça le dégoûtait », écrit l'autre. « Mon père a mis le feu au four en le nettoyant pour que ma mère ne lui demande plus de le faire », témoigne une autre internaute. C'est que l'incompétence stratégique peut être inconsciente ou savamment calculée, souligne la sociologue Mélissa Blais. Elle fait partie des grandes stratégies d'évitement dans les relations hétérosexuelles pour échapper aux tâches domestiques, contextualise la professeure au département des sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais. Et dans son livre « Les hommes et le féminisme », le politologue Francis Dupuy-Déry parle carrément d'un ensemble de tactiques de résistance et de sabotage que certains hommes déploient dans un contexte d'iniquité des tâches domestiques et parentales. Les femmes sont en effet encore responsables de la vaste majorité des tâches ménagères. Au Canada, 56 % des personnes vivant en couple hétérosexuel ont déclaré que la lessive était surtout accomplie par la femme du ménage, comparativement à 16 % ayant mentionné que c'était plutôt l'homme, selon un sondage de Statistique Canada mené en 2021. Aussi, environ la moitié, 48 % des couples interviewés, a déclaré que la préparation des repas était surtout effectuée par la femme, contre 16 % pour les hommes. Un arsenal de stratégies. Au fait, quelles sont ces fameuses stratégies d'évitement de tâches domestiques? Citant les travaux de la chercheuse française Laura Carpentier-Joffre, la sociologue Mélissa Blais mentionne la stratégie de l'escargot, qui consiste à laisser traîner les corvées à faire avec une lenteur bien calculée, si bien que la conjointe finit par les faire. Ou encore la stratégie du mort, où le conjoint va surjouer la fatigue pile au moment de faire des tâches ménagères. Ça, c'est sans parler de la stratégie du marchand de sable, soit quand le conjoint se dit disposé à aider, mais sans pour autant passer à l'acte. Dans sa BD « Ça se met où », l'illustratrice française Emma, connue pour son œuvre sur la charge mentale, répertorie elle aussi certaines de ses stratégies. La mauvaise humeur, la résistance passive, le zèle excessif et l'incompétence. L'arrivée d'un enfant. Les stratégies d'évitement sont par ailleurs souvent mises en place avec l'arrivée d'un enfant, même chez des couples en apparence égalitaire, affirme la professeure Blais. Il y a un principe, mais avec l'arrivée d'un enfant, il n'est pas mis à l'acte, explique-t-elle. Le conjoint s'investit moins dans la parentalité, forçant la mère à devenir le parent principal. Elle devient donc par défaut responsable autant de l'éducation et de l'horaire de sommeil de son enfant que de ses boîtes à lunch. Et à force de stratégies d'évitement, les femmes finissent par renoncer à déléguer certaines tâches et en prennent plus sur elles. Des corvées ménagères aux soins des enfants, une grande part du travail domestique leur incombe. La sociologue féministe française Christine Delphi qualifiait quant à elle ce travail gratuit des femmes d'exploitation économique la plus radicale. Rien de moins. Se fiant à des données françaises, elle remarquait également que le nombre d'heures de travail ménager des femmes en cohabitation hétérosexuelle bondissait en présence d'enfants, alors que le nombre d'heures de travail ménager des hommes restait le même. La professeure Blais tient toutefois à souligner que les stratégies d'évitement dont fait partie l'incompétence stratégique sont loin d'être des gestes sans conséquences. Ce ne sont pas des stratégies de paresse. Elles profitent aux conjoints car, au final, ils auront plus de temps à leur disposition pour leur carrière ou leurs loisirs, dit-elle. Forcément, les femmes, elles, en auront moins. Bref, l'égalité des sexes au foyer, ce n'est pas pour demain. Car les habitudes et les chiffres liés au travail ménager changent très peu. Certes, le jargon a évolué. On parle aujourd'hui moins de tâches féminines, souligne la sociologue Mélissa Blais. La lessive, ce n'est plus une tâche de femme. Aujourd'hui, quand on sonde les gens, l'argument, c'est celui de la préférence, dit-elle. Par exemple, un conjoint qui préfère faire des travaux manuels plutôt que de préparer quotidiennement un repas pour sa famille, c'est que, comprenez-vous, il n'est pas très doué pour la cuisine. L'incompétence stratégique à son comble. C'était « Votre partenaire oublie certaines tâches ménagères, c'est peut-être de l'incompétence stratégique », un texte de Laurence Niozzi paru le 25 juillet 2024 dans Urbania.
Le Québec et la guerre du bleuet, un texte d'Hélène Barry, paru le 16 septembre 2024 dans la presse. La saison qui s'achève a été à la fois bonne et mauvaise pour le bleuet québécois. Bonne parce que les récoltes sont abondantes. Mauvaise parce que cette abondance a fait baisser les prix pour les producteurs. Le Québec s'est d'ailleurs battu avec la Colombie-Britannique pour vendre ses bleuets dans les supermarchés et des producteurs ont crié au dumping. Le prix reçu par les producteurs québécois ne permettait pas de couvrir les coûts pour cueillir leurs bleuets et certains les ont laissés dans les champs. C'est que les bleuets voyagent de plus en plus et que le Québec et le Canada, qui sont traditionnellement d'importants producteurs et exportateurs du fruit bleu, ont de la concurrence. Les bleuets sont originaires du Canada, mais ils s'en cultivent maintenant partout. Nous ne sommes plus seuls. Le bleuet n'a jamais été aussi populaire à travers le monde. Ce petit fruit aux multiples vertus, reconnu pour ses propriétés antioxydantes, est très recherché par des consommateurs de plus en plus soucieux de saine alimentation. Il y a deux sortes de bleuets. Le bleuet dit sauvage, qui pousse au ras du sol, et le bleuet en corymbe, cueilli sur un arbuste. Le bleuet sauvage du Québec est surtout vendu congelé et vient principalement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De tous les fruits, produit au Canada, le bleuet est celui qu'on exporte le plus et qui rapporte le plus. En 2022, les bleuets ont représenté 70 % des exportations canadiennes de fruits en dollars, selon Statistique Canada. Ruée vers l'or bleu. Si plusieurs pays du monde se sont mis à la culture du bleuet, aucun n'a réussi aussi bien que le Pérou. Ce pays, où la culture était à peu près inexistante il y a 10 ans, est en voie de coiffer les États-Unis au premier rang des producteurs mondiaux de bleuets. Le succès péruvien est attribuable à plusieurs facteurs, dont la saisonnalité. Alors que les pays producteurs se trouvent dans l'hémisphère nord, où la récolte est concentrée sur quelques mois par année, le Pérou profite d'un climat qui lui permet de produire des fruits à l'année et en quantité. En 2022, les producteurs péruviens ont exporté 287 806 tonnes de bleuets pour une valeur de 1,4 milliard US. La même année, le Canada en exportait pour un peu plus de 660 millions de dollars canadiens. Le Pérou exporte surtout des bleuets frais, mais l'abondance des fruits sur les marchés internationaux fait en sorte qu'un volume de plus en plus important de fruits est vendu congelé, ce qui a un impact direct sur le Québec, qui exporte surtout des fruits congelés. Ici comme ailleurs, la production est très variable d'une année à l'autre et les changements climatiques pourraient changer la donne pour les producteurs. Au Québec, l'idée de constituer une réserve stratégique de bleuets sur le modèle de ce qui existe pour le sirop d'érable a déjà été soulevée par le syndicat des producteurs pour stabiliser la production et les prix. Mais contrairement au sirop d'érable, dont la production est concentrée dans quelques régions du monde, le bleuet se trouve maintenant partout. Le Canada n'est plus le roi du bleuet. Il faut s'y faire. Même la légende qui veut qu'un seul bleuet du lac Saint-Jean suffise pour faire une tarte a fait son temps. Cette année, un bleuet cultivé en Australie, gros comme une balle de golf, revendique le titre de plus gros bleuet au monde. C'était « Le Québec et la guerre du bleuet », un texte d'Hélène Barry, paru le 16 septembre 2024 dans la presse.
Élisabeth Lemay, soulevez lire. Une entrevue réalisée par Philippe Fortin, parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Après une entrée remarquée en littérature avec le roman Daddy Issues en 2022, Élisabeth Lemay reprend le fil de ses réflexions sur l'amour, la séduction et le féminisme avec L'été de la colère, un récit où elle multiplie les constats, les salutaires coups de gueule et les éclairs de lucidité, tout en cultivant une franchise aussi audacieuse qu'assumée. L'été de la colère est votre deuxième livre. Pourquoi avez-vous opté pour un récit? J'avais envie de raconter mon histoire, mais aussi celle des femmes qui m'entourent et de celles que je ne connais pas. J'aime jouer entre le récit et l'essai. C'était aussi le cas avec Daddy Issues. Y a-t-il des circonstances particulières ayant présidé à l'écriture de ce livre? C'est pour moi l'accumulation de tout ce qui constitue l'expérience d'être une femme. Du consentement à la pornographie, de notre rapport au corps et à la beauté, de notre place dans les salles de réunion aux rencontres amoureuses, tout incite les femmes à connaître leur place. On en vient à porter sur soi le regard des autres et la preuve de notre vacuité en dehors du rôle qu'on nous a attribué. Quel rapport entretenez-vous avec le féminisme? Les discussions autour du féminisme demeurent sur ce qui est mesurable, comme si, une fois la parité sur les conseils d'administration atteinte, tout était gagné. Je m'intéresse à l'intime et au conditionnement des hommes et des femmes à dominer et à être dominés. Certains ont reproché à mon premier roman, Daddy Issues, d'être anti-féministe parce que le personnage de la maîtresse amoureuse existait dans un état de soumission absolue. Comme si ne pas savoir nous départir de cette culture d'érotisation de la domination masculine qu'on nous a fait gober faisait des femmes de mauvaises féministes. Et je refuse d'en être blâmé. Je refuse le sceau de mauvaises féministes dont on affuble les filles aux prises avec cette culture qui les a façonnées. C'est cette vision du féminisme que j'ai voulu explorer. De Simone de Beauvoir à Mona Cholet, en passant par Bell Hooks et autres, vous évoquez plusieurs ouvrages tout au long du livre. En quoi vos lectures ont-elles façonné votre vision et votre compréhension du monde? Si ces lectures m'ont façonné, je suis aussi une femme à qui on a appris à rechercher le regard masculin et à valoriser l'amour de ce même masculin avant toute autre chose. L'été de la colère est né de ce sentiment constant de faillir, à la fois au rôle qu'on m'a attribué, mais aussi aux ouvrages féministes. Je revendique le droit de me soumettre à regret aux lois du patriarcat en n'en étant pas moins féministe. Je réclame le droit qu'ont les femmes d'être imparfaites, de se démener pour échapper à leur conditionnement et de faillir à leur propre politique. Si le féminisme m'a façonné, il est aussi la mère à laquelle je n'arrive jamais à plaire. Qui sont ces sorcières modernes que vous aimeriez voir célébrées davantage? La sorcière moderne est l'incarnation d'une forme de désobéissance. Elle est celle qui parle fort, qui répond aux hommes et dont on dit qu'elle a un sale caractère. Elle nage à contre-courant et s'affranchit du rôle qu'on lui a attribué. Dans l'été de la colère, je fais le portrait de femmes qu'on a vidées de leur âme pour en faire des événements. Pamela Anderson, Monica Lewinsky, Anita Hill, Britney Spears. Si je tente de leur redonner leur humanité, c'est moins pour les célébrer que parce que ce qu'on raconte de ces femmes a tout à voir avec qui nous sommes. L'amour vaut-il la peine qu'on s'y abandonne? Le jeu en vaut-il la chandelle? Sans remettre en question l'existence de l'amour ou de sa possibilité, ce qui m'intéresse, c'est notre manière d'aimer. C'est la culture de domination et d'inégalité inhérente aux histoires d'amour, celle de la culture populaire avec lesquelles on a grandi et, plus tard, les nôtres. Dans les relations hétérosexuelles, on en vient à érotiser le déséquilibre entre partenaires. L'amour ne relève pas que du privé et les relations intimes n'échappent pas au domaine politique. On a beau reconnaître la culture qui nous a fabriqués et comprendre notre conditionnement, on ne s'en débarrasse pas aisément. Aux femmes, il faut parfois une vie entière pour désapprendre. C'était Élisabeth Lemay, Soulevez lire, une entrevue réalisée par Philippe Fortin, parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.